Bienvenue sur Entreprendre dans la mode, le podcast des entrepreneurs et des acteurs de la mode. Je suis Adrien Garcia, designer et fondateur de la marque de vêtements Réuni. Chaque semaine, je vais à la rencontre d'une personnalité du monde de la mode pour comprendre son parcours, ses problématiques et ses stratégies pour innover et se développer. Avec ce podcast, je souhaite recueillir et partager des conseils pratiques et des idées neuves pour se lancer et réussir dans la mode. Entreprendre dans la mode, c'est aussi une newsletter dans laquelle je partage chaque vendredi les outils, les méthodes et les apprentissages clés d'un entrepreneur à succès. Pour ne pas rater les prochaines, inscrivez-vous gratuitement sur www.entreprendredanslamode.com. Enfin, si vous souhaitez sponsoriser ou co-créer du contenu avec Entreprendre dans la mode, c'est possible. Là encore, rendez-vous sur le site web du podcast. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes, alors pensez à vous abonner et surtout, bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Entreprendre dans la mode. On est toujours dans cette période de confinement. On est en train d'être déconfiné, mais on est toujours dans cette crise du Covid-19 et ça va durer encore quelques temps. Aujourd'hui, j'accueille quelqu'un qui n'est jamais passé sur mon podcast et que je connaissais pas jusqu'à présent, mais on va apprendre à se connaître. Il s'appelle Guillaume Proust et c'est le fondateur de The Claw Models. C'est une agence de mannequins et il va nous expliquer tout ça dans un instant. Bonjour Guillaume.
Bonjour Adrien. Enchanté.
Enchanté. Pour commencer, moi j'aimerais bien que tu te présentes et que tu reviennes rapidement sur ton parcours parce que je crois que tu as un parcours un peu atypique et qu'est-ce qui t'a amené à créer cette agence de modèles?
Alors moi, je suis à la base un financier. J'ai fait des études à Dauphine et ensuite j'ai passé l'expertise comptable que j'ai exercée pendant un peu plus de 15 ans. Et j'ai décidé en fait en octobre 2018 de revendre mon cabinet, en particulier parce que j'avais fondé quelques mois auparavant, cofondé avec deux autres garçons, Benoît Guinaud et Christopher Lucas, une agence de mannequins. The Claw Models, qui a une façon de voir et de repérer les mannequins qui est un peu différente. Hein. Nous, notre baseline, c'est the same but different. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est en effet des mannequins qui vont avoir des petites particularités qui, aujourd'hui, les directeurs de casting, les responsables d'images dans les grands groupes de luxe en particulier, qui est notre cible principale, ont adoré tout de suite le concept et les profils que l'on proposait, alors même qu'en fait, on nous a souvent dit au départ qu'on était une agence de street scouting, et en fait, pas du tout. Donc moi, j'ai eu cette opportunité, en effet, de pousser deux jeunes, puisque moi j'ai 20 ans de plus qu'eux, à monter cette belle aventure. Ça a très vite décollé. Et puis dans la foulée, j'ai également racheté une autre agence de mannequins qui s'appelle My Agency, qui est spécialisée sur les enfants. Et donc j'en ai fait en fait aujourd'hui une expertise, puisqu'on a un pôle qui est assez large aujourd'hui, avec le pôle adulte de The Claw Models et puis la partie enfant avec My Agency, sur des cibles un petit peu différentes, plus commerciales, plus à 360 degrés que The Claw, qui elle ne travaille que pour l'industrie du luxe. Donc on est très présent sur les Fashion Week et puis également sur toutes les campagnes, quelles qu'elles soient. Vraiment orienté luxe, c'est notre cible principale.
Mais alors, comment on passe, enfin, j'imagine que tout le monde te pose cette même question, mais comment on passe d'expert comptable à patron, à fondateur d'une agence de mannequins?
Ben, en fait, moi, ça fait 20 ans que j'accompagne des entrepreneurs. Je suis plutôt spécialisé à la base sur le high-tech et les industries culturelles. Le high-tech, c'est très large. Il y avait des entreprises dans le domaine de la mode, mais aussi des entreprises sur des sujets high-tech très pointus, sur des sujets différents, que ce soit la biotech, que ce soit que ce soit les fintech et autres. Mais ce qui est certain, c'est que en une petite vingtaine d'années, on arrive à vite repérer quand un entrepreneur a tout l'ADN pour faire quelque chose de formidable. Et ça a été le cas avec ma rencontre de Benoît et Chris, où j'ai senti qu'il y avait un potentiel énorme et je leur ai proposé de cofonder cette agence et de se lancer comme une start-up à la base. Hein. On a commencé avec deux iMac dans mon salon et puis ensuite ça s'est très vite développé. Aujourd'hui, on a une petite quinzaine avec une forte présence à l'international puisque on fait partie maintenant du club très fermé de Models.com, premier. Et on commence aussi à avoir des mannequins qui sont dans le top ranking dans ce qu'on appelle les host lists. On a aujourd'hui, c'est vrai, eu cette chance d'avoir des mannequins. On est très orienté sur l'image et ça, c'est lié aussi à l'histoire des fondateurs parce que les fondateurs, l'avantage qu'ils ont, c'est qu'ils n'ont pas été déformés potentiellement par un passage dans des agences de mannequins traditionnelles. Ils n'ont jamais travaillé dans des agences, tout comme moi, je n'ai jamais travaillé dans des agences de mannequins. Et donc, il a fallu tout apprendre, il a fallu tout créer. Et en même temps, le parcours de l'équipe a fait qu'il y a eu une grande complémentarité dès le départ. Alors de mon côté, vous l'avez compris sur la partie finance, sur la partie stratégie, sur la partie business développement, et pour les pour mes deux associés très opérationnels, eux ont eu une expérience sur la partie par exemple image en ayant fondé un magazine de mode qui s'appelait The Cloud Fashion Book, mais également en ayant été styliste photo, mais également pour certains en ayant fait des études de mode à Londres ou d'autres de la coiffure. Et donc tous ces éléments font que il y a un ADN très complet qui a fait qu'ils ont un avis très tranché sur les mannequins qu'ils recrutent partout dans le monde entier, qui sont capables également de les faire évoluer de manière fantastique et très vite de les placer dans les meilleures maisons et de donner envie à tous nos clients, les grandes marques, de faire appel à eux pour leur campagne, pour les éditos également, pour travailler l'image. Et ça a donné, comme ça, une force à The Claw, un ADN extrêmement puissant, parce qu'on a travaillé aussi sur des sujets qui n'étaient pas forcément directement travaillés, ou en tout cas pas avec une agence aussi jeune, où on a fait dès le départ une campagne de street, par exemple, dans la rue, qui a été très remarquée. On communique beaucoup sur les réseaux sociaux, on a une image très très forte, on a beaucoup de très très bons retours. On fait beaucoup d'interviews, on fait beaucoup de montage également, qui a été fortement repris d'ailleurs par pas mal de personnes. Et tout ça, ce sont des preuves en fait qu'en effet, il y a de l'innovation, il y a de la disruption, même sur un sujet qui est celui des agences de mannequins, qui peut avoir l'air classique. On a lancé par exemple les premiers castings en banlieue. On a lancé les premiers castings en banlieue qui ont fait un vrai tabac sur lesquels les jeunes d'ailleurs qui n'ont pas l'occasion forcément d'être scoutés dans la rue ou qui ne sont pas toujours visibles ont pu venir nous rencontrer et être recrutés par l'agence pour faire partie en effet des mannequins qui ensuite seront peut-être sur les shows. Et tous ceux qu'on a d'ailleurs recrutés sur ces castings en banlieue ont tout de suite travaillé. Et c'est ça qui est extraordinaire. Et c'est là aussi qu'on voit que le travail de l'équipe, le travail des bookers, le travail des agents est très profond, très sincère. Et je crois que ça, c'est un vrai sujet qui est permanent chez The Claw Models. C'est la sincérité du propos. C'est un vrai travail chirurgical d'accompagnement des mannequins. L'essentiel, en plus, des mannequins sont jeunes. Donc, il faut tout leur expliquer. L'essentiel des mannequins, beaucoup de mannequins sont étrangers aussi. Donc, il peut y avoir une barrière de la langue. Et puis aussi une barrière du métier qu'il faut apprendre. Donc il y a beaucoup de pédagogie, il y a beaucoup d'éducation. Voilà, vous retrouvez des éléments d'innovation, de communication, des éléments d'une nouvelle façon de recruter ces talents. Et ça a été jusqu'à l'innovation, mettre en place les premiers castings digitaux où on a mis une machine qui permettait d'ailleurs, sans qu'il y ait aucun humain, venir appuyer comme sur un photomaton, si vous voulez, pour nous envoyer des polas, comme on dit, d'accord, hein, des photos de face, de profil, oui. Et de les recevoir derrière et pouvoir recontacter des gens qui se sont pris en photo, donc dans des centres commerciaux, par exemple, on l'a fait à Châtelet-Léal, on l'a fait à Lille, à Villeneuve-d'Ascq, et ça, c'est une expérience aussi formidable, différente, parce que vous avez des gens qui ne vont pas forcément oser d'ailleurs faire un casting en banlieue. Elles ne vont pas forcément oser venir à l'agence dans Paris, rue du Louvre, pour venir nous rencontrer quand on fait des castings le vendredi. Et donc, on laisse la chance à tout le monde de venir nous rencontrer. Et évidemment, il y a aussi pas mal de rencontres sur le digital. Hein, aujourd'hui, on est très présent sur Instagram, pour ces raisons également. Voilà, donc cette histoire, elle a pu se faire parce que il y a eu des croyances positives très fortes, une vraie complémentarité entre les associés, une vraie volonté de faire des choses nouvelles, de pas chercher à faire comme les autres, surtout pas, ouais. De pas chercher à s'inspirer de ce que font les autres pour disrupter, pour être différent, quitte évidemment, quand on est différent, au départ, d'être fortement critiqué en disant « Oh, c'est bizarre, c'est un petit truc, bon, ça va pas durer, etc. » Et de voir aujourd'hui, très modestement, hein, le succès de The Claw, qui a déjà enchaîné plusieurs dizaines de campagnes, qui a travaillé pour toutes les grandes marques de luxe au monde, à l'exception d'une ou deux, Et ça viendra, on est confiant. Voilà. Donc
ouais, bien sûr.
Cette histoire, c'est
bravo.
Avant tout.
Trop bien. C'est passionnant là. Tu nous fais une intro très excitante et j'ai un milliard de questions à te poser maintenant. Et je pense que c'est un épisode qui va durer beaucoup plus que prévu. Tu as su attiser ma curiosité. Est-ce que tu peux nous expliquer comment fonctionne une agence de mannequins habituellement et en quoi vous êtes différent et j'ai une autre question même peut-être avant c'est je trouve que c'est hyper je trouve pas d'autre mot que couillu c'est couillu de se dire ok je vais m'attaquer à un nouveau métier que je connais pas forcément alors même si tes deux associés le connaissaient indirectement parce qu'ils travaillaient déjà dans cette industrie ils viennent pas non plus nulle part ils avaient fait leurs preuves
indirectement ils utilisaient des mannequins par exemple pour les éditos dans lesquels ils étaient stylistes photo ou dans les magazines puisque Benoît avait monté The Claw Fashion Book. Voilà, mais pas directement, en tout cas.
Ouais. Et le sentiment que j'ai, c'est que, ils ont vu un truc qui fonctionnait pas du tout, enfin, qui ne leur convenait pas, en tout cas, et qui convenait pas forcément aux nouvelles façons de travailler et à cette nouvelle génération de créatifs, etc. Et ils se sont dit, nous, on va le faire à notre sauce, quoi. Ouais, ils ont eu l'intuition.
Ils ont d'ailleurs, avant qu'on lance l'agence de mannequins, puisqu'ils faisaient du scouting, ils repéraient des mannequins qu'ils plaçaient dans des agences. On a repéré, par exemple, des mannequins comme Malik Baudian, qui aujourd'hui, Malik Baudian, en 2019, a été déclaré comme le meilleur runway boy au monde en 2019. C'est pas rien. On l'a placé chez Success. Il est d'ailleurs toujours chez Success. Nous, on est son, comme on dit dans le jargon du métier, on est son agence mère, d'accord. Là aussi, vous voyez, c'est important pour nous d'avoir une grande éthique. Malik, il est chez Success, ça se passe bien avec l'agence, et nous, on l'accompagne dans le développement de sa carrière. Ça a été, en effet, l'année dernière, le meilleur mannequin runway au monde. Aujourd'hui, il a fait des campagnes extraordinaires shootées par les plus grands photographes au monde. Il a fait l'égérie Dior, il a fait l'égérie Givenchy et j'en passe, et les meilleurs, pour ceux qui le connaissent, ils savent de quoi on parle. Et en fait, à partir de ça, on s'est dit, ben voilà, il y a quelque chose. D'ailleurs, avant qu'on monte l'agence, et c'est un petit peu ce qui a poussé aussi l'agence, on avait proposé à la team, à Benoît et Chris, à Benoît en particulier, de devenir en fait le responsable du scouting Europe d'une des plus grosses agences au monde. Et on s'est dit,
d'accord,
si on te propose quelque chose, toi qui as 26 ans, d'accord, qui vient pas du tout du milieu, qui a été successivement coiffeur studio pour coiffer les plus grands, coiffer Naomi Campbell, Kylie Minogue, etc. Et ensuite, tu montes un fashion book, et ensuite, tu fais un styliste photo, tout ça, tu n'avais même pas 26 ans. Tu vois, ça fait déjà, à cette époque, à 26 ans, déjà 10 ans.
Il est doué.
Tu travailles. Donc, il y a quelque chose.
Il y a quelque chose.
Moi, je ne sais rien. Moi, je suis un spécialiste des KPI, des indicateurs de performance. Je me dis, il y a quelque chose. Donc, je leur dis, s'il y a quelque chose, ben vous avez deux choix. Soit, en effet, vous avez un job, c'est sympa, etc. Soit, vous dites, ben vous êtes jeune, c'est le moment d'y aller. Faites un test. Donc, quand on dit, est-ce qu'on est couillu? Mais quand on est entrepreneur, et toi, tu le sais aussi, tu es entrepreneur également, avec Réunis. Et donc, c'est couillu, tout ça, puisqu'on prend des risques.
Bien sûr.
On y met de l'énergie, on y met de l'argent, on convainc des gens, et on n'est pas sûr que ça fonctionne. Et on doit gérer aussi tous les sujets administratifs. C'est les agents de développement, c'est un sujet très compliqué, très réglementé, très contrôlé, très suivi. Et donc, il faut se mettre dans tous ces sujets, les traiter les uns derrière les autres. Voilà, je ne parle même pas de la période historique qu'on est en train de vivre, qui est une nouvelle,
on va y venir,
nouvelle étape, de nouvelles contraintes, puisque depuis le 16 mars, pour toutes les agences,
tout s'est arrêté.
Il n'y a plus du tout de business. Là, ça reprend et tant mieux. On verra ce que vont donner ces nouvelles configurations avec cette Fashion Week digitale du 9 au 14 juillet, là, pour cette version 2020, un peu particulière. Et il y a des modèles qui vont se réinventer. C'est peut-être l'occasion. En effet, on va suivre tout ça. Évidemment, il faut suivre tout ça, et puis essayer de penser toujours à l'avenir, et puis comment répondre au mieux à des nouvelles demandes.
Et quelle sagesse de la part de tes deux associés d'accepter de faire un deal avec toi, avec un expert comptable. Mais c'est avant
on était déjà très proches. On connaissait déjà très bien, donc il y avait déjà une confiance qui était installée avant qu'on parle business. C'est pas arrivé comme ça du jour au lendemain. C'est pas parce
bien
que j'étais potentiellement l'expert comptable de l'un que pour autant, c'est pas le sujet. On était amis et très proches avant tout. Ce qui a permis aussi de parler de ces projets, de leur donner mon avis. Et puis eux de dire ah oui, c'est pas une mauvaise idée, go, on y va, voilà. Et on s'est dit l'union fait la force, et voilà. Moi, quand ça s'est créé, donc en 2018, j'avais encore mon cabinet que j'ai revendu quelques mois plus tard, parce que je me suis dit c'est l'occasion. On peut pas être à moitié sur un projet. Quand vous lancez sur un projet, il faut y être à 150%. Depuis la création en 2018, on y est à 150% dans cette aventure. C'est du 7 jours sur 7, c'est du, on va dire 24 heures sur 24, mais quasiment, parce qu'en fait, quand vous avez par exemple une Fashion Week à Paris, un mannequin qui défile à Shanghai, l'autre à Malibu, comme ça a pu arriver sur une Fashion Week, ben vous prenez tout le décalage horaire dans les dents, et vous devez gérer. C'est tout le temps, c'est non-stop. C'est un métier qui est très prenant, très très prenant.
Mais explique-nous alors ce métier et surtout moi ce que j'aimerais bien comprendre, parce que je pense que ça c'est assez mal compris des gens, c'est ouais, concrètement c'est quoi votre métier, parce que ça va du talent scouting, enfin du spotter le talent, le recruter, mais aussi c'est gérer toute sa carrière, c'est vraiment un job d'agent et de faire en sorte qu'il grandisse et qu'il aille peut-être rejoindre une plus grosse agence, qu'il fasse des campagnes, qu'il devienne de plus en plus bankable, c'est ça hein. Explique-nous tout le processus.
C'est exactement ça, c'est exactement le métier d'agent. Les bookers, ce sont des agents, c'est des agents qui en fait vont accompagner des poulains, hein, des talents, des mannequins, et qui vont faire en sorte que ces mannequins grandissent, soient de plus en plus vus, soient de plus en plus sollicités, les aident à progresser dans cette jungle, parce qu'il y a beaucoup de mannequins évidemment, et tout le monde n'aura pas la même place malheureusement. Et c'est un métier avant tout humain. C'est un métier humain parce qu'il faut écouter, il faut comprendre la personnalité du mannequin. Les mannequins qui réussissent le mieux, c'est ceux qui vont s'investir un minimum, c'est ceux qui vont avoir un minimum de charisme, c'est ceux qui en veulent, c'est ceux qui vont bosser. Ceux qui le prennent de manière dilettante, certains peuvent y arriver, il y a toujours des exceptions, mais globalement en fait, on sait presque d'avance quand on commence à recevoir les mannequins à l'agence, qu'on commence à les briefer, qu'ils commencent à faire les premiers castings, que les premières journées se déroulent, il y a déjà des signaux. Hein, il y a déjà des signaux, ces fameux signaux faibles, qui expliquent que le mannequin, potentiellement, il va cartonner ou pas. On sent tout de suite ceux qui vont cartonner. D'accord ? Et après, il y a ceux qui doivent s'améliorer, qui vont écouter les conseils, qui vont être patients aussi, parce que c'est un métier où il faut être patient, c'est pas toujours simple d'attendre, de faire X casting et de recevoir des noms, c'est dur psychologiquement aussi. Et le métier de l'agent...
Je trouve que c'est un des métiers les plus difficiles, franchement, mannequin, c'est horrible. Enfin, pour avoir vécu ça, j'ai pas jamais été mannequin, mais quand tu vois quand t'es en maison ou quand t'es sur un shooting, etc., je trouve que c'est un métier extrêmement difficile et on leur demande très jeune de faire un truc qui est hyper dur, quoi.
Il faut être patient, il faut être à l'écoute, il faut avoir de l'endurance, parce que ceux typiquement qui travaillent, c'est un vrai métier. Parce qu'évidemment, il y en a beaucoup qui se disent, mais attends, bon voilà, t'enfiles les vêtements, tu fais un sourire ou pas de sourire d'ailleurs, parce qu'on sourit pas forcément toujours beaucoup dans la mode et dans le luxe. Mais c'est fatigant. Vous enchaînez, vous prenez un avion, vous avez des décalages horaires, vous êtes à droite, vous êtes à gauche, vous devez patienter pendant des heures, vous faites un fitting, ça se finit potentiellement tard. Vous êtes rappelé très tôt le matin parce qu'il faut vous maquiller, il faut, enfin bref. Il y a tout un rythme, il y a un enchaînement qui est, c'est extrêmement dense. On le voit en particulier pendant les Fashion Week, mais même aussi quand il y a des campagnes qui s'enchaînent. Et puis beaucoup de mannequins sont très jeunes. Beaucoup de mannequins sont très jeunes parce que quand ils ont potentiellement 16 ans, 18 ans, 20 ans, qui sont en train de suivre en parallèle des études, par exemple, eh ben ils doivent jongler, d'accord ? Ils doivent jongler. Nous, on en a certains qui vont avoir d'ailleurs des statuts leur permettant de se libérer un petit peu, et ils doivent jongler entre eux. Ils ont des partiels à passer, en même temps, vous avez la Fashion Week. Certains, d'ailleurs, ne pourront pas les passer maintenant parce que ils doivent finir certaines choses qu'il est essentiel de finir, parce qu'on ne sait jamais quelle va être la durée de la carrière d'un mannequin. Certains vont travailler pendant plusieurs dizaines d'années, voire peut-être toute leur vie. Et puis d'autres, ça va être potentiellement éphémère. C'est en effet, comme tu le disais, c'est super ingrat. Et en même temps, c'est très excitant parce que ceux qui le prennent comme une expérience à vivre, je pense que c'est l'occasion aussi pour eux de vivre quelque chose qui peut être extraordinaire par définition. Ça sort de l'ordinaire. Et vous rencontrez des photographes, des stylistes, toute une émulation de gens qui parlent beaucoup en anglais aussi, mais plein de personnes qui viennent de tout horizon, qui viennent du Niger, qui viennent de Russie, qui viennent d'Amérique du Sud, rien. Et ça aussi, c'est un enrichissement extraordinaire. On voit d'ailleurs dans les mannequins des fratries qui se créent, qu'on essaie d'entretenir pour faire en sorte qu'il y ait un esprit de clos, pour faire en sorte qu'il y ait un ADN de l'agence de mannequins. Ça aussi, c'est important. Et ça aussi, c'est une fierté quand les mannequins parle de nous, quand les mannequins sont fiers d'avoir des agents qui s'occupe d'eux. Mais en tout cas, c'est beaucoup d'énergie. Il faut être, pour l'agent, structuré pour accompagner son mannequin sur le plan physique, évidemment, mais sur le plan psychique, sur le plan également de la compréhension du contexte de chacun. Il y en a certains qui arrivent et qui sont intimidés, donc il faut les rassurer, il faut leur expliquer une fois, deux fois, trois fois. Il faut être derrière eux tout le temps, il faut gérer toutes les problématiques de visa, il faut gérer toutes les problématiques aussi des fois de santé. Vous avez par exemple des gens qui arrivent à Paris et qui sont habitués à un air très particulier dans leur pays, et quand ils arrivent ici avec la pollution, vous avez par exemple des éruptions cutanées. Vous voyez, c'est bête. Donc on envoie un certain nombre de mannequins chez le dermatologue parce qu'ils arrivent et leur peau n'est pas habituée à la pollution parisienne, et ils ont des éruptions cutanées juste avant les castings. C'est toujours un petit peu difficile.
Ouais, c'est terrible.
Voilà. Et donc le job d'agent, il va jusque là. Il va jusqu'à trouver un kiné parce qu'un mannequin va avoir des petits problèmes de dos, etc., etc. Sans parler évidemment de la médecine du travail. Nous, on fait passer évidemment la médecine du travail à chaque fois, qui peut détecter des fois un problème qu'on n'aurait pas forcément détecté. Et donc, vous voyez, c'est tout un ensemble de choses à gérer. Et quand vous avez une Fashion Week, par exemple, et qu'on a 70 mannequins étrangers qui arrivent en même temps, il faut les loger et il faut s'occuper de tous les petits bobos éventuels des uns des autres et d'un planning extrêmement dense. Et donc, ça demande en effet une mécanique, une organisation au cordeau. Alors, il faut beaucoup de motivation des équipes.
Ouais. Tout à l'heure, tu parlais des mannequins. C'est vrai qu'ils sont souvent très jeunes, tous ces jeunes gens. Pourquoi cette industrie nous demande des gens aussi jeunes? Parce que souvent, c'est des gamins qui ont 16, 17, 18, qui sont extrêmement jeunes, quoi. Pourquoi est-ce que j'imagine que tu t'es posé la question, pourquoi il faut qu'ils soient si jeunes? Et est-ce que on peut quand même avoir une carrière quand on est un peu plus vieux? Et comment, c'est quoi les tendances que tu vois en ce moment sur l'âge des mannequins?
Alors, nous, on est, et ceux qui nous connaissent le savent très bien, nous, il y a presque même pas non plus d'histoire de sexe. D'accord? Puisque on a tout type de mannequin. Il n'y a pas forcément d'histoire que d'âge. Nous, un mannequin qu'on trouve extraordinaire, qui potentiellement d'ailleurs a déjà été mannequin, mais son agence historique s'en occupe plus, elle a quitté l'agence, il ou elle a quitté l'agence, le mannequin a quitté l'agence, on le récupère, on remet dans les starting blocks la personne alors qu'elle a 10 ans de plus que la moyenne, c'est-à-dire une petite trentaine d'années, parce qu'il pourrait presque faire partie des vieux mannequins, d'accord? Et derrière, la carrière repart. En fait, c'est aussi aux agents de montrer que n'importe quel type de profil peut correspondre à un brief. Parce que des fois, on a aussi les directeurs de l'image, peut-être, les photographes, les directeurs de casting vont peut-être avoir un brief qui est un peu restrictif. Pourquoi? Ce serait plutôt à eux qu'il faudrait poser la question, d'ailleurs. Et in fine, en les convaincant que certains profils pourraient tout à fait répondre, ils vont s'ouvrir et on va voir des choses différentes se faire. Et je pense qu'aujourd'hui, on prend aussi des mannequins qui sont un peu plus mûrs, justement parce qu'on n'a pas toujours envie que le mannequin fasse à peine sorti de l'école. Donc je pense qu'il y a franchement il y a de la place pour tout le monde et après ça c'est vraiment une question de vision. Et je pense que ceux qui prennent des risques justement avec des nouveaux profils derrière ça crée quelque chose. Voilà. Et c'est vrai qu'il y a une vraie attraction d'ailleurs pour ce qu'on appelle les new face. On recherche.
Oui, c'est ça.
Et souvent, il y a une
C'est quoi les new face pour ceux qui ne connaissent pas
c'est
le.
C'est pour ça que souvent, même quand certains veulent absolument un mannequin qu'on appelle new face, qui n'a pas encore été montré, certains veulent des fois des exclus plus ou moins fortes pour être sûr que ce soit les premiers à montrer ce mannequin et voir pourquoi pas à incarner une nouvelle image de la marque ou d'une collection qui est en train d'arriver. Je t'ai coupé dans ta question.
Ouais, c'est quoi The New Face? Une New Face pour ceux qui connaissent pas le jargon.
Le New Face, c'est un nouveau visage. Voilà, c'est un nouveau visage qui n'a pas forcément été montré et qu'on va présenter au directeur de casting, au responsable d'image, voilà, et qui vont donc pour la première fois faire leur show, par exemple pendant une Fashion Week. Ou faire pourquoi pas des éditos. On peut avoir aussi pas mal de photographes qui veulent des nouveaux visages et qui vont les montrer dans des magazines et puis derrière ils vont être vus. On va voir la transformation également, hein. C'est ça l'avantage de travailler l'image et les éditos. On va voir la transformation d'un mannequin d'une situation A par rapport à une situation B et c'est incroyable la variation et c'est aussi ça la force de l'équipe, hein, la vision, c'est de réussir à repérer comment les mannequins vont prendre la lumière, comment les mannequins dans l'objectif à l'écran sur le papier vont être d'autres personnes. Parce qu'en effet, quand on
la seule façon de le faire, ça, c'est qu'il faut prendre des photos, quoi, parce que.
Ouais.
La seule façon de le voir, ça, c'est quoi? C'est l'œil, c'est la photo, c'est faire une photo, faire des tests.
Alors, c'est à la base l'œil. L'œil doit être exercé.
Ouais.
Et l'œil de Benoît et Chris et des autres bookers de l'agence est exercé à ça, toujours avec évidemment une grande modestie, puisque, encore une fois, il y a des profils auxquels ils peuvent croire et les profils. Des fois, on a du mal à les placer. C'est comme ça. C'est le jeu du hasard, voire des fois le jeu de la patience. Hein, c'est-à-dire qu'il y a des profils qui travaillent peu pour l'instant et sur lesquels les équipes croient très fort. Et donc, The Claw va pousser. Grâce à son image, aujourd'hui, on nous écoute toujours de plus en plus. Et ça, c'est une bonne chose. À chaque succès, les gens, au contraire, vont même des fois nous demander sur des nouveaux projets qu'on leur donne et qu'on partage avec eux des profils particuliers qui vont répondre au brief. Et ça, je crois que c'est vraiment une des forces, encore une fois, c'est de ne pas avoir peur d'aucun projet. De ne pas avoir peur d'aucun projet et d'être à fond dans chacun. À fond dans chacun. Et je crois que ça, c'est vraiment important, c'est de se donner toute son énergie, d'être très à l'écoute de ce qui se fait à droite à gauche pour essayer de garder toujours une vision la plus fraîche possible. Les Américains disent de nous, on adore votre freshness. Et je crois que ça représente pas mal aussi The Claw. C'est freshness. Voilà. Ce besoin de fraîcheur absolue.
Ouais, et on sait, Dieu sait que la mode aime la freshness. Aujourd'hui, tu disais que vous étiez une quinzaine de personnes. Qu'est-ce qu'ils font, chacun de ces personnes? C'est tous des chefs de projet ou ils ont tous des rôles bien particuliers, des rôles très attitrés? Comment ça se passe? Comment ça fonctionne?
Alors, tout à l'heure, tu me demandais en fait ce qu'était une agence de mannequins. Je n'ai pas forcément répondu à la question. Mais si on voulait faire un parallèle facile à comprendre pour tout le monde, une agence de mannequins, c'est comme une agence d'intérim. D'accord? On a des mannequins sous contrat. Et donc on va les proposer sur des jobs et ils vont travailler sur des jobs, d'accord? Ils vont travailler sur des jobs de manière ponctuelle comme un intérimaire va travailler de manière ponctuelle sur un job avec cette particularité que le mannequin peut travailler quelques heures seulement quand l'intérimaire travaille souvent plusieurs jours. Mais c'est exactement le même principe. À la fin du mois, il a sa fiche de paye et puis on paye des charges sociales sur le job qu'il a fait, etc., etc. Et alors, la question, pour revenir à ta question...
C'était ces 15 personnes, qu'est-ce qu'elles font, chacune d'entre elles?
Comme dans n'importe quelle entreprise, nous, notre business, c'est d'avoir des agents. Donc, on a un certain nombre d'agents qui sont là pour représenter des différents types de boards, d'accord? Certains vont être plus spécialisés sur les mannequins femmes, d'autres plus sur les mannequins hommes, d'autres sur certains types de clients. Donc, on a un board composé de plusieurs bookers. On a cette particularité d'avoir un art department, typiquement, quand on parlait de création, de motion design, de créa graphique, on a un labo en interne où on fait des tests en permanence. Est-ce que les gens pourront voir, par exemple, sur ne serait-ce que sur notre Instagram de scouting, qui s'appelle The Claw Scouting, vous allez retrouver des vidéos, vous allez retrouver un certain type d'image. On a travaillé, par exemple, toute l'image des mannequins avec un photographe, avec comme un type de filtre spécifique qui est reconnaissable partout dans le monde entier. Quand on voit ce type de mannequin, ce type de photo, on sait que c'est The Claw qui est présente un mannequin. Et tout ça, ça se travaille. C'est pas juste, on fait un pot là et puis c'est fini. Il y a beaucoup plus de travail derrière pour arriver justement à créer cette ADN. Donc le art department, il est là pour ça. Par ailleurs, on a aussi une personne qui est en charge des projets spéciaux. Donc on va avoir des gens qui vont s'occuper des castings en banlieue, qui vont s'occuper de nos castings digitaux, qui vont s'occuper à nous accompagner quand on a des projets particuliers sur lesquels on a besoin de ressources et sur lesquels les agents n'ont pas le temps de s'occuper de ça. On va avoir des gens qui vont s'occuper que du travel et de l'accommodation. On va avoir des gens qui vont s'occuper de l'administratif, plusieurs types d'administratifs, des gens qui vont être sur la partie paye, des gens qui vont être sur la partie suivi des contrats, des gens qui vont être plutôt sur la partie client. Bon. Ça, ce sont des activités support, cette partie office management, somme toute assez classique. Mmh. Et tout ça, ça représente une quinzaine de personnes. Voilà.
Mmh. On en fait. Et le modèle économique d'une agence de mannequins, c'est quoi? C'est vous prenez une fees sur tous les contrats de vos poulains.
Exactement. Il y a une rémunération, tout comme si je continue encore à faire un parallèle avec l'agence d'intérim, elle aussi, pour le travail qu'elle fait de placement de main d'œuvre, reçoit en effet une rémunération par rapport à son travail. Donc nous, on est rémunéré. Ah, tout ça est très strict. Hein. On a, oui, en France une grille avec des taux. Donc le mannequin perçoit un certain type de taux en fonction des types de jobs. Et ça, on n'y déroge pas. C'est très clairement écrit dans les textes. La France est le pays au monde le plus strict sur ces sujets. Dans la plupart des autres pays, il n'y a pas ce sujet-là. Il n'y a pas le sujet du salariat qu'on peut avoir en France. Il n'y a pas le même sujet des types de charges qu'on peut avoir également en France. Chez nous, c'est extrêmement réglementé. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il faut avoir une licence auprès de la préfecture, gérée par la directe, et qu'il y a il y a des textes de loi aussi très précis, que vous avez aussi des grilles avec des taux horaires en fonction de l'expérience du mannequin, d'accord. Plus le mannequin est expérimenté et plus son taux horaire est important. Tout ça est extrêmement codifié. Hein, vous avez les textes de loi.
On fait pas n'importe quoi. C'est
vous
clair.
Avez les syndicats d'agences de mannequins également pour faire évoluer ou faire des propositions d'évolution ou pour en tout cas accompagner également les agences de mannequins. Voilà, c'est un secteur qui est très réglementé.
Comment on met le pied dans la porte de toutes ces grandes maisons, ces grandes marques, etc. Dont tu as, enfin, t'as énuméré personne d'ailleurs, mais tu disais en début d'interview que vous avez travaillé pratiquement avec toutes les plus grandes maisons du monde, donc on les imagine. Et puis bon, si on regarde un petit peu sur Instagram, on verra vite avec qui vous travaillez.
Exactement, tout à fait. Ouais, c'est pas
voilà. Mais bon, il y avait par exemple Balenciaga, Céline, etc., etc. Donc bon, les meilleurs sur le marché. Comment on met un pied dans la porte quand on est nobody encore au tout début? Est-ce que tu peux nous expliquer il y a 2-3 ans en arrière comment vous faisiez pour mettre le pied dans la porte?
Oui. Alors au départ, comme Chris et Benoît travaillaient en tant que stylistes avec des marques, puisqu'ils allaient chercher des vêtements entre autres dans les showrooms, hein, qui prennent des vêtements pour permettre aux stylistes de faire des éditos pour les magazines en particulier, ou pour des marques sur des jobs. Il y avait déjà des premières relations avec les acteurs, le petit monde des acteurs de la mode. Même si, en réalité, les contacts principaux des agences de mannequins, ça va être les directeurs de casting, ça va être différents types de personnes qui ont besoin d'avoir des mannequins sur des campagnes. Ça peut être, par exemple, le directeur de l'image, ça peut être des boîtes des agences de publicité, des boîtes de production diverses et variées. Tous ces gens-là, en effet, recherchent régulièrement des mannequins pour travailler sur leur job. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est repérer tous ces gens-là et leur faire savoir qui on est et qu'on est capable de leur proposer, nous aussi, comme les autres agences de mannequins, des profils pour travailler sur leur job, sachant qu'en dans ce secteur spécifique, parce que c'est pas forcément le cas dans d'autres business. Par exemple, si on regarde les mannequins entre guillemets commerciaux, ils vont être souvent représentés par plusieurs agences. Dans la partie luxe, les mannequins sont représentés en exclusivité sur toute la France, par exemple. Et dans ces cas-là, les mannequins qu'on présente, ils sont que chez The Clos pour, par exemple, toute la France, d'accord ? Éventuellement, ils peuvent être représentés par nous dans plusieurs pays. Mais là, les mannequins qu'on présentera ne seront que chez nous. Voilà.
D'accord.
Donc ça, c'est aussi une force. Et le but, c'est de créer aussi une cohérence dans le board que l'on a. Donc, il faut se faire connaître auprès de tous ces acteurs. Et au fur et à mesure, quand ces acteurs vous connaissent, quand ils ont des besoins, eh ben, ils font tout simplement une demande à toutes les agences qui correspondent ou qui correspondraient selon eux au brief. Et ensuite, ils font leur sélection. Ils reçoivent ensuite les mannequins éventuellement pour faire ce qu'on appelle des fittings, pour essayer les vêtements, ou pour rencontrer l'équipe, ou pour rencontrer le directeur casting, mais également le directeur artistique de la maison, ou d'autres personnes qui participent à la sélection par rapport au brief qui est demandé. Donc c'est un travail qui se fait comme n'importe quel business, hein, c'est du développement commercial où il faut faire savoir les ressources que l'on a, ce qu'on peut potentiellement apporter de plus, et après la notoriété fait le reste, hein, c'est-à-dire qu'elle est travaillée petit à petit. Dès qu'on fait des éditos, dès qu'on travaille pour des marques, eh ben c'est visible. On reconnaît aussi d'ailleurs, c'est un certain nombre disent, tiens, ça c'est un mannequin The Clos. Ah tiens, lui il a l'ADN The Clos. Ça prouve bien qu'a priori il y a une certaine cohérence dans aujourd'hui les un peu plus de 200 mannequins que l'on a signé aujourd'hui chez The Clos.
Eh bien, petit disclaimer quand même, on a fait cet épisode en deux fois, en deux parties, parce qu'on a été pris par le temps la dernière fois, et je trouvais que c'était quand même intéressant d'aller un petit peu plus loin avec Guillaume sur son modèle, sur son activité, et voilà. Et donc maintenant, j'avais envie de parler avec Guillaume de la crise du Covid-19, parce qu'on est toujours dans cette crise, hein, on est en mai 2020, donc là on est dans la première semaine du déconfinement. Guillaume, moi j'aimerais bien que tu nous dises, que tu nous expliques quel a été l'impact de cette crise sur votre business. Est-ce que vous l'avez vu arriver? Comment vous avez réagi? Comment vous avez réagi pour affronter ce tsunami, quoi?
Écoute, je sais pas si grand monde a vu cette crise venir. Ce qui est certain, c'est qu'on avait pris des précautions avant l'annonce du confinement, en particulier parce que nos mannequins ont circulé dans différents pays et entre autres à Milan juste avant d'ailleurs Paris. Donc on avait pris des précautions sanitaires classiques, hein. Déjà une forme de distanciation du gel hydroalcoolique et les mesures barrières qui étaient préconisées à l'époque. Et ensuite, ça a été en effet assez violent, puisque à partir de mi-mars, tout s'est totalement arrêté. C'est-à-dire que toutes les productions en cours, tous les business se sont intégralement sur mes différentes agences de mannequins arrêtés. Et pour cause, puisque ce n'était plus techniquement possible de les réaliser. Il y a eu pendant quelques jours un flottement, et puis ensuite, sur chacune des prods, les gens ont dit « mais non, c'est pas possible », certains ont exercé des droits de retrait, et donc après, en cascade, ça s'est poursuivi. Voilà, donc ça a été assez classique, si j'ose dire, hein. Comme beaucoup de secteurs d'activité, ça a été un arrêt violent, et puis ensuite, pendant cette période, on en a profité, si j'ose dire, pour essayer de prendre un petit peu de recul sur des choses qu'on n'a pas le temps de faire habituellement, pour essayer de prendre du recul aussi, pour faire des choses sur recruter des mannequins avec un peu plus de recul, faire des interviews, essayer de communiquer avec des publics avec lesquels on a peu le temps de discuter, de manière digitale, par le biais d'Instagram en particulier, par le biais de...
Vous avez fait des lives,
on a fait des lives, on a participé à des interviews avec différentes agences dans le monde entier. On a fait pas mal de posts aussi. On a invité nos mannequins à parler d'eux, à nous raconter quel est leur quotidien. Et donc, on a posté des stories également sur les réseaux sociaux. Et puis, ça a permis aussi... peut-être de se dire, quel va être le monde de la mode demain. Et on l'a vu avec les semaines, une volonté peut-être de se réinventer. Hein, on l'a vu, même si on ne sait pas encore exactement comment va se passer cette première Fashion Week digitale à Milan et à Paris du 9 au 14 juillet prochain. On ne sait pas non plus exactement comment va se passer la prochaine Fashion Week qui est censée se tenir en septembre. On ne sait pas exactement quelles vont être les conséquences aussi de l'absence d'un certain nombre de jeunes marques qui ne pourront pas probablement être présentes en septembre. Certains sont sortis également du calendrier. Donc, comment ça va s'organiser? Comment ça va s'organiser en particulier les flux de mannequins, puisque dans ce métier, en particulier quand on a beaucoup de mannequins qui sont présents sur les shows pendant les Fashion Week, il y a une transhumance de X dizaines, 50, 70, une centaine de mannequins qui peuvent circuler d'un pays à l'autre en enchaînant les New York, Londres, Milan, Paris, Shanghai, que sais-je encore, si Shanghai ne s'enchaîne pas forcément. Et donc là, ça va peut-être s'étaler davantage. Là, on va peut-être chercher à être peut-être encore plus sélectif pour éviter de faire bouger autant de mannequins. Est-ce qu'il y aura plus de direct booking, point d'interrogation? Est-ce qu'on va en profiter pour...
C'est quoi les direct booking?
Alors, le direct booking, c'est quand on sélectionne un mannequin à distance sans le voir et on dit, voilà, je veux voir ce mannequin. Et donc la marque qui veut voir le mannequin va prendre en charge les frais pour le faire venir et faire ses tests. Alors que quand on est pendant la Fashion Week, vous avez les mannequins qui enchaînent les castings, ils sont tous présents pour ça. Ils enchaînent des dizaines et des dizaines de castings, et puis ils sont ensuite retenus sur certains mannequins. Les mannequins qui sont expérimentés et qu'on voit déjà, ou qui sont connus par les marques, certains passent même pas les castings puisque voilà, il y a pas de sujet. Mais pour tout ce qu'on appelle, dont on avait parlé dans le précédent podcast audio, les new faces, les nouveaux visages, eux évidemment passent les castings puisqu'on a besoin de savoir. Si ça colle, il y a toujours une petite différence, même si on essaie d'avoir des photos qui sont les plus justes possibles, des polas naturels, hein, c'est évidemment, on a quand même besoin à un moment ou à un autre de voir les gens. Donc cette période en fait de crise sanitaire, elle a permis de prendre un peu de recul, d'améliorer des process, de se poser des questions aussi sur comment travailler mieux, sur comment accompagner encore mieux les mannequins, d'échanger davantage avec tous ces acteurs aussi avec lesquels on a peu le temps de discuter, en fait, parce que toute l'année, ça va très, très vite. Moi, j'ai échangé avec des grandes marques de luxe qui nous révélaient le nombre de shows, en fait, qu'ils avaient dans l'année, parce qu'on le sait même plus à la fin. Il y en a, ils en ont tous les mois. Et donc, c'est un vrai, vrai, vrai rythme effréné. Et d'ailleurs, certains d'être contents, dans le fond, d'avoir cette possibilité de se poser quelques semaines. Voilà. Bon, ça, c'est peut-être mon côté positif d'essayer, voilà. À côté de ça, évidemment, il a fallu, en tout cas pour ma part, moi qui suis plutôt sur la partie financière, business développement, stratégie, il a fallu évidemment travailler sur ce qu'on appelle du downsizing, c'est-à-dire la réduction de coûts, d'aller mobiliser également les outils qui sont à disposition, comme le prêt garanti par l'État, par exemple, et de voir comment on peut en effet, de manière intelligente, projeter des hypothèses de chiffre d'affaires qui sont très compliquées à modéliser, avec des coûts en face qui soient les plus flexibles possibles. Hein, on va parler d'agilité. Donc, moi, j'ai beaucoup travaillé sur l'agilité, qui est aussi quand même un peu une de mes spécialités, parce que comme je l'avais expliqué, moi, je suis à la base un financier spécialiste des entreprises à forte croissance et des structures de niche, que ce soit dans le high-tech ou que ce soit dans le domaine des industries culturelles, que ce soit les labels de musique que j'ai pu accompagner, les gens de la télé, des créatifs de toutes sortes, quel que soit le domaine. Un des sujets fondamentaux aujourd'hui, c'est en effet d'avoir cette agilité. Agilité, voilà. C'est jamais simple.
Alors là, je t'arrête parce que j'ai... Ouais. Oui. Moi, j'aimerais bien qu'on parle de deux choses parce que tu déroules et c'est passionnant ce que tu nous racontes, mais j'aimerais bien avoir deux, trois détails en plus. Tu parles donc d'agilité, mais tu parles aussi de downsizing. De downsizing. Dans une agence de modèles, c'est quoi la structure de coût à part, tu vas nous expliquer, mais j'imagine que tu as les salariés et puis vos agents qui vous accompagnent, qui accompagnent vos modèles. Mais un modèle, on le paye que quand il travaille, il n'a pas de salaire le reste du temps, on est d'accord, hein.
Alors, en effet, sur la partie des mannequins, s'ils ne travaillent pas, il n'y a pas forcément de coût, on est d'accord. Mais en effet, on a une équipe de permanents, hein, comme on l'expliquait, nous, on est une petite vingtaine de personnes, si on regroupe les deux agences en particulier. Et donc, on a des coûts humains fixes par défaut. On a aussi des locaux. Et nous, on a fait le choix d'avoir des locaux aussi qui soient agréables pour les mannequins, agréables pour les équipes qui y travaillent. On a des grands espaces avec ce qu'on appelle une table de booking où tout le monde est autour de la table. Ça, c'est vraiment des spécificités de ce business. C'est un peu comme un open space, mais c'est une grande table où les gens sont en face à face et en côte à côte. Alors, pas du tout pratique pour respecter les règles de crise sanitaire, d'ailleurs, même si les équipes sont encore en chômage partiel aujourd'hui. Et par conséquent, voilà, on a ces frais de structure qui sont composés principalement, hein, de la masse salariale permanente et puis également de ces coûts de locaux et puis les coûts qui vont autour. Par exemple, c'est des frais de logiciel, c'est des abonnements qu'on a pu avoir sur des investissements qu'on a fait. Par exemple, on a investi dans du matériel digital pour faire les castings dont on avait parlé, castings digitaux. Bah, tout ça, ce sont des coûts fixes qu'il faut retravailler. Parce qu'ils sont là tous les mois. Et le chiffre d'affaires, pour l'instant, il est pas là du tout. Ça commence à reprendre là après le confinement. Puisque à nouveau il y a des prods qui vont pouvoir commencer à se faire. Il y a eu des prods aussi, quelques prods digitales qu'on a réussi à lancer avec des très grandes marques de luxe. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que quand on est aussi force de proposition ou quand on transmet quelques idées, les gens qui nous apprécient se disent que c'est une bonne idée. Et donc il se passe des choses et il s'est passé des productions comme ça, à distance, hein, où les photographes retravaillent la photo qui est prise directement par les mannequins. On envoie les vêtements chez le mannequin, dans son espace personnel. Voilà, c'est toute une organisation dont personne n'avait l'habitude, d'ailleurs. Voilà. Ça aura forcément ses limites. On attend de voir d'ailleurs, nous,
c'est sûr.
On n'a pas encore vu les images définitives de ces prods qui se sont faites il y a quelques jours seulement, mais ce sera intéressant.
Parle-nous des outils, enfin pas des outils, des, enfin si, ça c'est une autre question. Je me note des petits mots à chaque fois.
Bien sûr.
Les outils que vous utilisez dans une maison de prod, dans une agence de modèles. C'est quoi les outils que vous utilisez quotidiennement
Alors, ouais. L'outil principal que tu utilises, c'est un outil qui gère ce qu'on appelle les bookings, qui va gérer en effet. Les productions, d'accord, et qui va gérer un agenda qui nous permet de savoir quel mannequin intervient sur quel job, selon quelles conditions, et tout ce qui va en découler derrière, la partie administrative en amont, mais également la partie aussi administrative en aval. En amont, c'est toutes les déclarations que l'on doit faire aux organismes sociaux, d'accord, et puis ensuite les contrats qui sont signés également, les vouchers qui sont signés avec les clients, des systèmes de commande, d'accord, tout ce formalisme est géré par l'outil. Donc il y a une traçabilité en fait sur toute la chaîne jusqu'à la facturation, ça c'est l'aval, où évidemment derrière ça permet de suivre les flux. Parce que par exemple sur une Fashion Week, quand vous avez, je dis n'importe quoi, 200 prestations, c'est-à-dire potentiellement 200 participations de mannequins à des défilés, à des shows, à des présentations, que sais-je encore, vous avez presque quasiment autant de factures à faire, et les fiches de paye également. Donc ça représente en fait pas mal de volume, c'est pas mal de l'épicerie, d'accord, parce qu'un mannequin qui intervient sur un show 4 heures, il y aura autant de documents que, à la limite, un mannequin qui intervient sur une prestation pendant 5 jours. C'est le même type de documents, et sachant que évidemment pendant la Fashion Week, ça dure quelques jours seulement, et vous en avez des dizaines et des dizaines par jour. Donc on comprend bien cette tension qui existe, voilà, et que l'outil derrière, ces fameux outils, il y a quelques acteurs sur la place qui sont éditeurs de ces solutions, et puis ensuite chaque agence potentiellement peut rajouter, hein, un peu comme des couches de millefeuille, des modules supplémentaires pour gérer après d'autres choses, pour gérer de la prospection, pour gérer éventuellement du développement international, que sais-je encore. Il y a plein d'idées qu'on peut imaginer là-dessus. Voilà l'outil principal.
Revenons sur ce qui s'est passé sur pendant la période là. Tu parlais notamment de mannequins qui se photographiaient eux-mêmes, etc. Quels ont été pour toi comment est-ce que l'industrie a réagi à cette crise et à ce fait qu'on pouvait plus faire d'images comme auparavant, et qu'est-ce qui t'a le plus marqué, ou qu'est-ce que vous avez vécu? Explique-nous comment vous avez vécu la période de confinement, et puis j'aimerais bien qu'on développe un petit peu les nouveaux, ce qui va se passer après, quoi. Tout à l'heure tu parlais de la Fashion Week complètement digitalisée. Est-ce que tu as des pistes pour nous expliquer comment ça va se passer concrètement? J'imagine que tu dois avoir deux, trois pistes de réflexion quand tu discutes avec les marques.
Alors on a des pistes de réflexion, il y a des échanges qui se font avec les acteurs. J'ai pas forcément de scoop à aujourd'hui, parce qu'on est pas mal tous dans, je pense, à chercher les modèles, et puis on peut aussi d'ailleurs lire la presse sur ce sujet que tu lis également. Donc il y a encore rien de très précis, parce que justement c'est en train de s'inventer, donc ça prend forcément un petit peu de temps, et que plus on va s'approcher du but, si j'ose dire, là si on parle de la Fashion Week digitale le 9 juillet, et plus il va y avoir une tension qui va évidemment monter. Mais rappelons que les mannequins ne peuvent pas circuler encore aujourd'hui. On parle d'une circulation possible dans l'espace Schengen avec des justificatifs à partir du 15 juin pour ceux qui sont hors espace Schengen. Donc il y a déjà ça à prendre en considération, cette difficulté potentielle pour réaliser certaines productions. Ce qu'on entend, ce qu'on voit encore une fois, c'est que les gens veulent faire évoluer les modèles. Donc ils réfléchissent comment faire avec des prods plus contraintes, puisqu'on a moins de personnes possibles. Quand on regarde les règles qui sont édictées par les grands groupes de luxe qui commencent à circuler auprès des agences de mannequins, vous avez les équipes qui sont largement réduites. Et c'est pas d'ailleurs que dans l'activité de la mode, puisque dans l'industrie du cinéma, de la télé, c'est à peu près les mêmes choses. Les scripts sont réécrits, les gens sont filmés, jouent avec les distances, n'ont pas le droit de se toucher, n'ont pas le droit de s'embrasser. Enfin, ce sera aussi la même chose probablement pour l'industrie de la mode, en tout cas dans cette période de transition. Et on sent que les gens essaient de s'organiser et de pousser à des idées. Et donc, je pense que les gens sont à l'affût d'idées. Comment on peut travailler avec ces nouveaux outils? Par exemple, quand on fait une prod digitale chez un mannequin, bah, c'est avec un iPhone que la photo se fait. Ou éventuellement avec l'appareil photo, si le mannequin est équipé d'un appareil photo, mais les mannequins ne sont pas forcément photographes. Certains, d'ailleurs, le sont. Mais voilà. Donc, on se débrouille, en fait. Il y a beaucoup plus de système D. On se débrouille. Il y aura plus de post-prod, probablement. Peut-être que ça poussera à des visuels, une créativité aussi qu'on n'avait pas forcément l'habitude de connaître sur des prods classiques avec pas mal d'intervenants pour que ça puisse se réaliser. Je sais pas si je réponds à une partie de la question.
Non, mais moi la question que je me pose surtout finalement, parce qu'on est quand même une industrie où bah, on vend des produits et des produits, on aime bien les toucher. Ouais. et tu te dis, ok, quand, une fashion week, c'est quoi? Une fashion week, c'est une grand messe où toutes les marques défilent, font des showrooms, etc. Ouais. Pour faire du buzz autour d'un défilé, autour d'une marque, etc. Mais c'est aussi quand même le rendez-vous de tous les acheteurs du monde pour venir acheter des collections. Et acheter une collection sans pouvoir la toucher, c'est toujours pareil. Ça paraît complètement dingue. Enfin, ça paraît un peu compliqué. Ça paraissait très compliqué jusqu'à présent. Comment est-ce que tu penses que les acheteurs vont réagir cette fois-ci? De toute façon, ils n'ont plus le choix. Il va falloir qu'ils achètent de toute façon.
Ouais, alors, soit ils vont organiser, je sais pas, des showrooms mobiles, soit ils vont organiser les showrooms quand même, quoi qu'il en soit, pour ceux qui peuvent circuler. Pour ceux qui ne peuvent pas circuler, peut-être qu'en effet, est-ce qu'il va y avoir des expéditions? Est-ce que les showrooms vont se délocaliser? Est-ce qu'on va investir davantage? Parce qu'on a vu pas mal s'exciter toutes les équipes digitales, voire pas mal d'intervenants extérieurs commencer à proposer peut-être d'autres produits. Un peu plus de 3D, un peu plus d'outils qui permettent d'aller plus loin dans le grain, dans la visualisation. Je pense qu'il y a une explosion. On n'a pas tous les chiffres, mais on l'a vu déjà, ne serait-ce qu'avec les GAFAM. J'ose imaginer qu'avec les BATX chinois, ça doit être la même chose. Mais je pense qu'en effet, les sites internet qui vendent les marques de luxe, les Sense, les Yoox, etc. Ont dû cartonner aussi, en tout cas, ne serait-ce qu'en consultation, après ce que les gens ont acheté, il paraît qu'il y a plutôt une baisse. Mais je pense qu'en tout cas, il y a davantage de développement, davantage de prise de conscience aussi de l'importance d'aller encore plus vite ou plus loin sur le digital. Alors, c'est quoi la contrepartie? Est-ce que ça va créer une tension supplémentaire pour les sites physiques des marques? Je ne sais pas, je pense que ça va continuer à se réinventer. Ça va accélérer.
Tout à l'heure, tu parlais d'agilité pour les boîtes, et les petites, les moyennes, les grandes, les grosses. Quelles sont, toi, tes pistes de réflexion là-dessus? Alors déjà, peut-être parle de toi, de ton activité, de ton business, mais comme tu étais... expert comptable auparavant, j'imagine que tu as d'autres réponses pour d'autres secteurs d'activité, en tout cas peut-être dans la mode. Comment est-ce qu'on crée des boîtes plus agiles qui seront résilientes aux prochaines crises qui arriveront, et en tout cas déjà à cette crise, quoi?
Alors en effet, cette agilité, elle est caractérisée quand l'entreprise a une capacité de réagir et de s'adapter très vite à son environnement. Et aujourd'hui, dans cette période, en effet, où tout va très vite, on le voit, l'information circule à une vitesse incroyable, il y a une volonté en permanence de s'adapter à des modes de toutes sortes. Il faut être très modeste, puisque ça change en permanence. Et cette agilité, elle est caractérisée pour moi par quatre grands piliers, hein, qui en fait sont les piliers qui... comme on le dit dans le jargon financier, ce sont des actifs immatériels. C'est ce qui représente d'ailleurs plus de 90% de la valeur de l'entreprise. On parle beaucoup de valeur financière, mais en effet, ce qui va constituer la valeur de l'entreprise, ce sont ces quatre piliers. Et les quatre piliers, c'est quoi? C'est l'humain, l'organisationnel, la technologie et le relationnel. Tout ça au service du client. Pour l'expliquer en deux mots, l'humain, on le comprend assez vite, c'est cette capacité d'avoir des équipes qui s'adaptent à leur environnement, qui sont formées, qui sont également avec une acuité pour s'adapter à cette culture, à travailler aussi de manière différente. On utilise des méthodes, par exemple, pas mal issues de l'informatique. On parle par exemple de la méthode Scrum, où vous allez travailler sur des micro-sujets et vous allez vous voir régulièrement, par exemple avec des petites réunions de 10 minutes, pour vous adapter au monde qui change autour de vous. D'accord ? Et plus l'entreprise est importante et plus elle a du mal à fonctionner avec ces méthodes, parce qu'elle a tendance à avoir beaucoup de réseaux de décisions qui font que on est moins agile, on va beaucoup moins vite. L'organisationnel, il est essentiel, quelle que soit la structure, et même quand on est 2, 3, 5, 10, 15, il faut être le plus structuré possible pour que l'information soit validée, contrôlée et qu'en même temps, on puisse aussi prendre des décisions très rapides. Donc, raccourcir les délais, mettre en place des outils dématérialisés, ça, c'est l'organisationnel. La partie technologie, dans tous les business, vous avez une composante de technologie. On parle beaucoup de l'intelligence artificielle aujourd'hui, depuis 2 ans même. On parle beaucoup du machine learning, de ce que ça peut apporter. Par exemple, dans la mode, vous avez aussi de l'intelligence artificielle, les algorithmes qui permettent, par exemple, d'aller repérer de plus en plus des mannequins qui vont être les mannequins qu'on va rechercher demain. Pourquoi pas aussi de faciliter la façon de retrouver des profils sur les différents réseaux. Ou encore, peut-être, des mannequins qui vont être des mannequins digitaux. C'est des sujets qui sont en train d'être développés aussi dans cette industrie. Et le quatrième volet, c'est le relationnel, qui est un sujet qui est souvent négligé. On n'a pas cette culture, en particulier en France, de ça. Les Américains, par exemple, travaillent beaucoup cette culture du réseau. Dès l'école, dès le lycée, par exemple, vous avez ce qu'on appelle les debates qui vous habituent, en fait, à interagir avec votre écosystème, à travailler sur des sujets qui ne sont pas que les sujets cœur de métier, qui permettent d'ouvrir, si j'ose dire, les chakras sur d'autres sujets. Le relationnel, il est très important. Il est aujourd'hui beaucoup tourné, en particulier dans notre business, autour des réseaux sociaux. L'importance d'Instagram, l'importance de LinkedIn, de Twitter. On voit dans la mode, c'est pour certains une absence totale. Pour d'autres, une prise de conscience importante d'utiliser ce réseau très fort. On peut parler de TikTok. Je crois qu'on a fait partie des premières agences à commencer à communiquer sur TikTok, à faire des prods avec nos mannequins. Il ne faut rien négliger parce que chacun de ces axes correspond à des cibles qui sont dans la chaîne, peuvent être intéressantes. TikTok, par exemple, on peut se dire, bon, la clientèle moyenne, c'est 13 ans, 14 ans, à quoi ça sert? Et ben, ce sont des relais aussi pour potentiellement trouver des mannequins, pour augmenter la notoriété, pour donner une image aussi. C'est important, on le voit beaucoup ça sur Instagram, hein, que le travail de l'image corporate est très négligé dans certains business. Dans business historique, chez les experts comptables, on en a très peu. Les gros cabinets sont présents, les autres le sont pas. Voilà, ce sont les 4 piliers qui constituent en fait la force de l'entreprise et son agilité. En fait, ils sont tous interconnectés et tout ça pour une chose, avoir des nouveaux clients, être au taquet avec les clients que vous avez, être en interaction d'ailleurs aussi. Et quand vous avez, en effet, quand vous travaillez ces différents sujets, vous avancez plus vite, vous arrivez à vous renouveler, vous êtes, comme on dit, vous êtes aware, d'accord ? Et le fait d'être aware, hein, ça fera rigoler un certain nombre de personnes.
Ouais, bien sûr.
C'est juste un truc, c'est une philosophie. C'est une philosophie qui doit être imprégnée auprès de toute l'équipe, de tous les collaborateurs, et ça, ce sont en particulier les dirigeants qui doivent l'infuser. Si ça vient pas d'en haut, en dessous, il peut rien se passer. Si en plus on invite les équipes à infuser eux-mêmes cette culture auprès de leurs collaborateurs avec lesquels ils travaillent, mais aussi d'être force de proposition, de leur laisser la possibilité d'être force de proposition, de les inciter même d'ailleurs à être créatifs, à être dynamiques, à disrupter, d'accord ? On l'a dit, hein, nous, on a été souvent critiqués au départ parce qu'on se disait on se clôt, ils font des trucs ça correspond pas vraiment à ce qu'on recherche. Et aujourd'hui, a priori, ça a l'air d'être ce qu'on recherche beaucoup. Il faut croire dans ce qu'on fait. toi, tu as créé une marque, tu crois à tes codes, tu crois à l'atmosphère probablement que tu veux faire passer au travers d'images, au travers de contenus, au travers de propos. Et je crois que c'est ça aussi qui crée l'agilité, c'est d'avoir des croyances fortes et d'être aware.
Ouais. J'aimerais bien qu'on creuse ça parce que je trouve que c'est assez passionnant tout ce que tu nous racontes. Et j'aimerais bien que tu donnes aussi des exemples pour plus qu'une agence de mannequinat. Typiquement, moi je trouve que un des vrais sujets, et tu le disais, hein, c'est vraiment là où le bât blesse souvent en France, c'est le relationnel. C'est comment est-ce qu'on développe le relationnel, comment est-ce qu'on développe son réseau, comment est-ce qu'on développe son network, ouais. C'est aussi simple que ça. Comment est-ce qu'on reste en contact avec les gens, parce que moi je prends mon exemple personnel. J'ai la chance avec mon podcast de rencontrer des dizaines de personnes, des gens incroyables avec qui j'ai envie de rester en contact régulièrement. Alors j'y arrive en envoyant des news de temps en temps, en prenant un café avec les gens de temps en temps, en réinvitant quelques personnes à revenir passer sur mon podcast pour donner des news et faire une petite update de ce qui s'est passé depuis un an et demi, deux ans. Mais je suis souvent assez frustré par le fait que j'ai du mal à entretenir la relation, parfois, alors pas avec tout le monde, il y a certaines personnes avec qui je suis devenu hyper proche, mais d'autres personnes où on s'est pas revu, on s'est pas reparlé, on s'est pas recroisé, et je trouve que c'est vraiment dommage parce que moi j'ai envie de l'entretenir, ça. Comment tu fais toi pour rester connecté à tous les gens que tu apprécies ou et avec qui tu as envie de rester en contact, quoi?
Alors déjà je pense que la base de tout ça c'est de partager. C'est de partager un minimum ce que l'on fait. C'est d'aimer avoir envie de faire savoir qui on est et de s'intéresser aussi aux autres, d'accord ? Pour qu'il y ait un échange. Parce que la communication, en fait, c'est un émetteur et un récepteur. Et donc, il faut aimer faire passer de l'information. Il faut aimer écouter. Il faut aimer interagir. Il ne faut pas hésiter à donner son point de vue sans dire pour autant qu'on pense avoir la bonne idée. Et je pense qu'il faut être présent. Là, on a une chance extraordinaire aujourd'hui, c'est qu'on peut en effet être en contact permanent les uns avec les autres, ne serait-ce que grâce, encore une fois, aux réseaux sociaux, qui vont se compléter ensuite par des rencontres plus physiques, des choses aussi simples que de prendre un café. On a d'ailleurs chez The Claw un espace qu'on appelle la Living Room, qui est un espace assez sympathique où vous avez beaucoup d'art contemporain, vous avez des fauteuils, où on passe beaucoup de temps avec différents acteurs qui passent nous voir. Ça va de la Fédération de la Haute Couture en passant par les stylistes, les photographes, les designers, les gens qui travaillent sur les prods, les directeurs de casting, que sais-je encore, les mannequins, les agences mères, les scouts, bref, on a toute une grande famille comme ça qui passe nous voir, des journalistes, des gens de la télé, que sais-je encore, avec lesquels on passe des bons moments, des moments de convivialité où on explique qui on est, ce que l'on fait, où on entretient, quand les gens nous connaissent, cette relation. Et c'est vrai que notre espace, qui est un peu comme une maison, 38 rue du Louvre, a cette vocation, quand on rentre, quand on pousse les bureaux, et je t'inviterai à venir nous voir physiquement, les gens sont tout de suite à l'aise, parce que on l'a construit comme une maison, d'accord ? On a une cuisine, on a un espace où on pose des tentes, on peut écouter de la musique, et ça, je crois que c'est très important pour maintenir une relation. Ensuite, il faut ne pas hésiter, en effet, à communiquer sur tous les réseaux. Évidemment, Instagram est l'outil number one pour nous. Donc, on est très actifs avec plusieurs comptes Instagram pour faire passer l'image très forte. Il y a un vrai parti pris sur la façon dont on agence les photos, dont on agence les vidéos, dont on crée du motion design, dont on met des flux en story. Voilà. Et ça, je crois qu'en effet, il faut être aidé aussi. Donc, il faut avoir des gens qui sont des créatifs, qui sont des spécialistes de la com, qu'on internalise, ou des gens externes qui viennent vous aider ponctuellement sur les missions que vous avez. Et je crois que quand il y a un vrai propos, les gens s'intéressent à vous. Nous, en un an et demi, c'est vrai qu'on a déjà été interviewés par différents médias, que ce soit des gens comme France TV, que ce soit des magazines économiques comme La Tribune, On a des choses également en cours dans d'autres grands journaux, Le Parisien, des journaux locaux aussi, quand on a fait les premiers castings en banlieue dont j'avais parlé, au Mureau, à Montreux, etc. Vous avez plein de chaînes de radio locales, également des médias locaux qui sont très lus par la population et qui sont des relais extraordinaires parce qu'ensuite les gens de fil en aiguille parlent de vous. Et donc ça fait une pub extraordinaire. On a fait les premiers castings aussi à la Villa Noailles pour rayonner sur le sud de hier à Marseille. Et à chaque fois, on a des relais, des gens qui sont intéressés, qu'on vienne à eux, alors qu'en effet, on est tous assez parisiens, en fait. Hein, les grandes agences sont principalement basées à Paris, je parle des agences françaises. Et c'est bien, c'est important de bouger, et on a d'autres projets là-dessus pour se rapprocher digitalement, physiquement, de nos différents clients, mais aussi des gens qui s'intéresse en effet au milieu de la mode. Donc il y a aussi pas mal de propositions qui viennent de différents médias. C'est le cas par exemple d'EDM aussi aujourd'hui. Si on se parle aujourd'hui, c'est parce que on a parlé de nous à EDM, et nous on a accepté très volontiers d'échanger, de partager. Je crois qu'on le fait assez facilement. Voilà, de partager nos bonnes énergies, nos croyances positives. Parce que on pense que l'humain, le mannequin, a un vrai talent. Et d'ailleurs, on a un Instagram pour défendre les talents de nos mannequins, puisque certains sont danseurs, certains sont avocats, c'est un talent aussi, sont, que sais-je encore, photographes, écrivains, etc., etc. Et on essaie de pousser aussi, de montrer qu'on n'est pas là uniquement pour placer les mannequins sur des jobs, mais qu'on peut être là aussi pour leur donner un coup de pouce, parce que on aime que nos mannequins, voilà, aient des envies aussi pour compléter leur carrière ou leur quotidien, puisque tout le monde ne travaille pas en full time.
Ouais. Juste pour revenir sur l'agilité, donc tu avais parlé de cette capacité, les quatre points. Redis-moi les quatre points, parce que je trouve qu'ils étaient, c'était puissant.
Alors, les quatre piliers, c'est l'humain, l'organisationnel, la technologie et le relationnel. Ça, c'est vraiment les quatre piliers qui correspondent à tous les cas possibles. Hein. Même la relation qu'on peut avoir, par exemple, avec les clients et les fournisseurs sont dans ce capital relationnel. Hein. Entretenir une bonne relation avec des clients, c'est un actif très important. Avoir une organisation avec des procédures qui s'adaptent, qui sont souples, c'est un actif très fort. La technologie, hein, comme on le disait, intégrer de l'intelligence artificielle, intégrer de la reconnaissance faciale, ce type d'outils, d'intégrer des outils digitaux aussi pour mieux travailler, des applications diverses et variées, des choses qui sont visibles, d'autres qui ne sont pas visibles. Dans tous les business, on a ces différentes composantes qui existent dans tous, quel que soit. Je peux le dire d'autant plus facilement que, encore une fois, j'ai accompagné plein de business différents dans ma carrière, et que on retrouve toujours ces fameux piliers.
Très bien. Bah merci beaucoup en tout cas pour ce cours sur l'agilité. C'est passionnant. C'est quoi ton rêve le plus fou pour notre industrie dans les mois et années qui viennent ?
Ça, c'est une question toujours difficile, parce qu'il n'y en a évidemment pas qu'un. Mais moi, je crois que si on arrive à avoir encore plus d'humanité sur l'accompagnement, la reconnaissance du mannequin, et qu'on le voit pas uniquement comme une étoile filante, ce sera déjà quelque chose qu'on aura réussi d'une manière intéressante. Encore, on parlait hein, de l'âge des mannequins, et nous, je t'expliquais que on a des mannequins qu'on a fait revenir dans le jeu et qui avaient un petit peu disparu de la circulation, alors même qu'en fait, quand on travaille leur ADN et que en plus ils ont une vraie envie de continuer à travailler pour cette industrie, et qu'on les aide donc à réintégrer le circuit, il se passe plein de choses. On a des mannequins qui ont 30 ans, on a des mannequins qui ont 40 ans, on a des mannequins qui ont 50 ans, et même dans le luxe, et qui font des éditos. des itos pointus, comme les fameuses new face qui sont tout jeunes, qui peuvent avoir 16 ans, 17 ans, 18 ans, 20 ans. C'est pour ça que cette croyance de l'humain et pas uniquement comme une étoile filante, si on arrive à considérer encore davantage demain toute la richesse qu'il y a dans cette évolution qu'on a tous, qu'on vit tous, ce sera déjà un beau combat gagné. Après, nous, on espère aussi que les marques, là, elles réfléchissent beaucoup à l'environnement, à leur impact, à leur empreinte carbone. Je crois que ça, c'est quelque chose qu'on peut pas passer à côté non plus. On voit bien aujourd'hui, dans des périodes de pandémie, l'importance de considérer les problématiques de climat, l'importance de considérer les problématiques aussi, en effet, d'impact que ça peut avoir de faire circuler des mannequins en permanence dans le monde entier. Je pense que de réinventer, de chercher des solutions les plus justes, ce serait une belle chose. Si on regarde encore une fois le côté positif de cette affaire ou des contraintes que l'on vit tous aujourd'hui et nous aussi en particulier depuis mi-mars.
C'est quoi le futur de The Claw Model et le futur de Guillaume Proust? Comment tu te vois là? Comment tu vois ces deux entités à part entière dans les 5, 10, 15 ans?
Alors, moi je vais dire nous avec l'équipe parce que en fait Guillaume Proust il est rien sans l'équipe. Guillaume Proust, il est rien sans ses associés, il est rien sans la team qui bosse au quotidien avec nous. Et moi, ce que je vois, c'est qu'il y a une vraie énergie créative, il y a plein d'idées qui fusent de partout. Et moi, je suis là pour accompagner ces idées, les transformer, les challenger, faire en sorte qu'elles se réalisent. Et dans cette période de difficulté, encore plus qu'elle se réalise avec un timing qui est raisonnable par rapport à ce que ça peut consommer en ressources, mais que derrière tout ça, il y a évidemment plein de projets avec beaucoup d'humanité, avec une envie de réinventer un certain nombre de sujets, à continuer à montrer The Claw au monde entier. Nous, on a déjà un terrain de jeu qui est le monde, mais on est encore très centré avec notre agence principale qui est à Paris. Donc on va continuer à être présent, à développer le business en essayant de conserver notre identité très forte qui est the same but different et une créativité permanente, une envie d'avoir un échange constructif avec tous les acteurs de la place, avoir une envie aussi que les acteurs qui pour certains nous connaissent un petit peu de loin aient compris vraiment que ça pouvait avoir un intérêt de travailler avec The Claw Models.
Très bien. Merci beaucoup. Je pense qu'on va s'arrêter là, sauf si tu as d'autres points que tu souhaiterais aborder avant de terminer.
Non, le dernier point peut-être une phrase conclusive en disant que je crois qu'il y a un certain nombre d'acteurs qui veulent faire évoluer les choses suite à cette crise sanitaire et que ayons une envie positive en effet que les choses aillent dans le bon sens avec encore plus de respect de l'environnement, de l'humain, qu'on ne perd pas de vue aussi l'importance qu'il y ait encore des jeunes créateurs qui soient présents parce que c'est souvent eux qui apportent aussi une fraîcheur dans les choses qui évoluent, que l'on continue à entretenir les prix qui peuvent exister, je ne sais pas, au moment de ce qui peut se passer à la Villa Noailles, des prix qui sont remis par les grandes marques qui peuvent soutenir aussi l'émergence de jeunes créateurs. Continuons à être dynamiques en effet sur ça et à n'oublier personne, à ne laisser personne sur le côté pour continuer à rêver avec la mode, avec le luxe qui, je crois, a encore de belles choses à écrire. Et on espère qu'on ne reverra plus cette couverture qui a été assez marquante, je trouve, de Vogue toute blanche parce que justement, ça exprimait aussi que ben, c'était en ce moment un peu la page blanche, puisqu'on ne pouvait plus tourner, on ne pouvait plus voir d'images, on ne pouvait plus voir de couleurs. Et je crois qu'on a été très marqués par cette image. Et on veut une image, en tout cas moi je veux une image avec de la couleur, avec de la vie, avec des gens qui rayonnent, qui respirent, et qu'on fasse partie de cette belle aventure dans les années à venir. Voilà. Merci encore Adrien, en tout cas pour cette longue interview. Merci de nous avoir fait confiance en nous donnant la parole.
Ben merci à toi. Et je pose une dernière question quand même, que je pose à tout le monde, c'est qui souhaiterais-tu entendre dans ce podcast ?
Qui je souhaiterais entendre dans ce podcast ? Alors moi, il y a une personne que j'admire énormément, qui est un grand ami, qui s'appelle Hubert Barrère, le patron de Le Sage. Alors je ne sais pas s'il n'est pas déjà passé chez Envie d'entreprendre. J'ai envie d'entreprendre dans la mode.
Non, jamais.
Mais si ce n'est pas le cas, il faut absolument que tu interviewes un grand monsieur comme Hubert Barrère, le patron de Le Sage, qui est parti du groupe Chanel, qui est truculent, qui est drôle, qui est plein d'humanité, qui est un ami que j'adore profondément. Et voilà, je te le recommande. Si tu m'as demandé un nom, je pourrais en donner plein d'autres, en fait. Hein, donc ça va être terrible pour les autres, mais tu m'en as demandé un, donc il y en a un comme ça qui me vient à l'esprit.
D'accord. Bah écoute, je te demanderai une intro et ce serait avec grand plaisir que j'irai l'interviewer.
Je te connecte.
Merci beaucoup pour tout ton partage. Merci beaucoup Guillaume. Prends bien soin de toi et puis bah j'espère que te rencontrer un jour en vrai, en chair et en os.
Tu es le bienvenu. Merci, à très bientôt Adrien. Merci. Au revoir.
Salut. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si vous cherchez les notes de l'épisode avec toutes les références, c'est simple. Allez sur le blog du podcast www.entreprendredanslamode.com. Aussi, si vous souhaitez me contacter ou me suggérer de nouveaux invités, vous pouvez le faire sur Instagram sous le pseudonyme @entreprendredanslamode. Enfin, le plus important, laissez-moi un avis sur Apple Podcast ou iTunes, 5 étoiles de préférence. Cela m'aide à faire connaître le podcast à plus de monde et m'encourage à faire de meilleures interviews. Merci de soutenir ce podcast et à bientôt pour un nouvel épisode.